au réseau Cogeco.
Vous écoutez Auto 360. Avec Daniel Boudreau.
Auto 360. Voici la chronique luxe, prestige et histoire avec Philippe Lagu.
Oui, avec Philippe Lagu. Puis Philippe nous en a parlé un petit peu au début de l'émission. La Spider 124, on parle de Fiat.
On parle de Fiat parce que, bon, on parle d'une décapotable aussi parce que même si on est le 21 octobre, hein, on risque d'en voir beaucoup en fin de semaine sur la route parce qu'on est en plein cœur de ce qu'on appelle l'été indien. Alors, c'est l'été en automne. On a droit à une dernière dose de soleil et de chaleur avant le retour des températures plus fraîches. Et tous les propriétaires de motos et de décapotables en profitent. Moi, j'en ai vu plein sur la route cette semaine. Je sais pas toi, Daniel.
Là. Oh, il y en a partout.
Ouais, c'est ça. Alors, je me suis donc dit que c'était le moment idéal pour parler d'une décapotable célèbre, la Fiat 124 Spider. Et même si le modèle actuel est plus une Mazda qu'une Fiat, il a quand même sa personnalité bien à lui, là, avec son petit côté italien, vous allez le voir dans le deuxième bloc.
Oh oui.
Puis d'ailleurs, j'ai eu de la misère à me brancher pour la chronique d'aujourd'hui, je te le cache pas, là. Cette semaine, je me demandais, est-ce que je parle de la Mazda ou de la Fiat en premier? Puis là, j'ai dû changer d'idée 25 fois avant de me décider pour de bon. Puis si j'ai finalement opté pour la Fiat, ben c'est pour des raisons historiques. Parce que, bon, la chronique a un volet historique. Et chronologiquement, la Fiat 124 a vu le jour bien avant la Miata, une bonne vingtaine d'années. Puis, faut le dire, Daniel, ce sont, on le disait en début d'émission, ce sont ces petits roadsters européens des années 60 qui ont servi d'inspiration à la Mazda. Faut pas l'oublier. La Fiat 124 Spider, l'Alfa Romeo Spider aussi, deux italiennes, puis les roadsters anglais également, comme la Lotus Elan, la MG, les Triumphs. Alors, voilà pour la raison historique. Puis maintenant, ben, s'il y a des auditeurs, des auditrices qui se demandent pourquoi qu'on parle d'une Fiat dans la chronique Luxe et Prestige, à ça, je vais vous donner deux explications. Premièrement, la Fiat 124 et sa sœur japonaise, la Mazda MX-5, ben ce sont des jouets, on s'entend là-dessus. Ce sont des voitures qu'on peut conduire seulement 6 à 8 mois par année, là, du moins chez nous. Or, ce sont des jouets dont le prix peut varier entre 35 et 50 000 $ selon les versions. Alors, on ne peut pas dire que ce sont des jouets bon marché.
Non.
Non. Puis deuxièmement, ben, Fiat a deux modèles qu'on peut qualifier de mythiques. Hein, on le disait ça aussi en début d'émission. Puis la Spider, ben, est l'une d'elles. L'autre étant, bien sûr, la Fiat 500. Et si je vous parle de Lada, là, vous allez encore plus vous demander, mais qu'est-ce que ça vient faire dans la chronique Luxe et Prestige?
Merci, Philippe, ta dernière chronique. C'était
ouais, ça... Attention, Daniel, comme disait Raoul Duguay, tout est dans tout.
OK.
Parce que, tu vas voir, la première Fiat 124 Spider, qu'on appelle d'ailleurs à l'origine la Sport Spider, ce qui peut différencier de celle d'aujourd'hui. Là, aujourd'hui, c'est Spider tout court, mais à l'origine, c'est Sport Spider. Et c'est une voiture qui voit le jour en 1966. Et même si c'est un petit roadster à deux places, elle reprend la plateforme d'une berline, la Fiat 124. Or, c'est cette même Fiat 124 qui va être produite sous d'autres appellations dans d'autres pays, en Espagne, au Maroc, en Turquie, en Corée du Sud. En Corée, Daniel, là, c'est même l'ancêtre de la Kia, parce qu'au début, c'était une Fiat 124 qui était vendu sous l'appellation Asia, qui est devenue Kia par la suite.
Eh ben.
En Inde aussi, et en Russie, où elle va être commercialisée sous la bannière Lada. Alors ça, c'est la Lada qu'on connaît tous, là, la berline carrée, celle-là même qu'on peut encore voir quand on va à Cuba, il y en a encore un paquet là-bas, et qui a été vendue chez nous au début des années 80. Alors ça, c'est une Fiat 124 qui date de 1966, là, pour l'essentiel. Il faut préciser, par contre, que le modèle qui nous concerne aujourd'hui, là, la Spider, n'a jamais été vendu sous un autre nom. Autrement dit, il n'y a jamais eu de Lada décapotable.
Okay.
Alors, la 124 se décline donc, là, à l'époque, en quatre configurations. La berline, la familiale, le coupé et la décapotable. Et la décapotable, ben, c'est justement la Sport Spider, là. Alors, les quatre partagent le même châssis, mais on l'a raccourci pour le coupé et pour la Spider. Comme ce sont des versions sportives, ben, elles ont aussi droit à un moteur un petit peu plus puissant, un 4 cylindres de 1,5 litres à double arbre à cames en tête d'une puissance de 90 chevaux. Et puis ça peut sembler dérisoire aujourd'hui, mais il ne faut pas oublier que ces voitures étaient très légères parce qu'elles n'étaient pas munies de toutes les commodités des voitures d'aujourd'hui, là, ni des accessoires de sécurité. Et à ses débuts, une Spider, ça pesait même pas 1000 kilos, là. c'était autour de 950 kilos. Ben, un peu comme la première Miata. La première Miata, faut pas l'oublier, c'était quoi, 110, 115 chevaux à peu près. Alors, c'était pas un monstre de puissance non plus, là.
Non.
Alors, à l'époque, le design de la Sport Spider est jugé un petit peu trop conservateur. Mais pourtant, ça c'est le beau côté de la médaille, c'est que cette sobriété-là va lui permettre de vieillir en beauté. Parce que la 124 Sport Spider va demeurer pratiquement inchangée pendant 20 ans. Jusqu'à la fin de sa vie, en 1985. Et là, je précise,
sa première vie,
oui.
C'est ça.
Mais il faut dire que la Sport Spider, ça n'a pas été dessiné par n'importe qui. Hein. Toutes les 124 ont été dessinées à l'interne, chez Fiat, sauf la Spider, qui est une création du célèbre studio italien Pininfarina. Et pour la petite histoire, c'est un Américain, Tom Giarda, qui travaille pour Pininfarina et qui est chargé de dessiner la Spider à l'époque. Et là, j'ouvre une parenthèse. Tom Giarda, c'est aussi celui qui a dessiné la De Tomaso Pantera, qui est vraiment son chef-d'œuvre. Puis il faut dire que la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre parce que Giarda est lui-même fils de designer. C'est son père qui avait dessiné la Lincoln Zephyr 1937, qui est aujourd'hui considérée comme une des plus belles Lincoln. Alors, fin de la parenthèse. Donc, sous cette robe qui est somme toute là, assez classique, il y a une mécanique qui est assez raffinée pour l'époque, hein, surtout venant d'un constructeur généraliste là, comme Fiat. Son moteur à double arbre-à-cam en tête, on l'a mentionné, avec une culasse en aluminium. Ben, ce moteur-là a été conçu par Aurelio Lampredi. Et ça, c'est un ancien de Ferrari. Alors imagine un gars qui dessinait des V12 de Ferrari qui s'est trouvé chez Fiat après. C'est quand même pas n'importe qui. Puis il faut aussi mentionner ses freins à disque aux quatre roues et sa boîte manuelle à cinq rapports, hein, parce qu'en 1966, on retrouvait ça sur des voitures beaucoup plus chères. Et un peu comme la Porsche 911, la Spider change pas, ou peu, en apparence, mais on lui apporte constamment des améliorations là, pendant sa longue carrière. Là. Officiellement, il y a une seule génération qui a duré plus de 20 ans, mais qui se divise en cinq phases. Là. Il va y avoir cinq séries, là, AS, BS, CS et ainsi de suite. Là. Et chaque série s'accompagne de modifications. D'abord au niveau mécanique, avec une augmentation graduelle de la cylindrée qui va passer de 1,6 litres à l'origine à 2 litres à la fin, et l'injection qui remplace le carburateur en 1979. Il y a aussi des modifications constantes au niveau de la finition qui devient plus cossue à partir de la troisième série. On va retrouver du cuir volant en bois, tu vois un peu le genre. Et à partir de 1968, la Spider va être exportée en Amérique du Nord et c'est là qu'elle va connaître le plus de succès. Parce qu'entre 1974 et 1981, elle va même être vendue seulement aux États-Unis. Mais à partir de 1981, Fiat va transférer la production de la Spider à l'usine de Pininfarina. Et là, la Spider va revenir sur le marché européen pour les dernières années de sa vie. Et en tout, c'est un peu moins de 200 000 exemplaires qui ont été produits, 198 200 plus précisément. Et c'est assez peu pour un modèle qui a duré aussi longtemps et qui n'était pas hors de prix, là. En comparaison, il y a plus d'un million de Mazda MX-5 qui ont été produites en un peu moins de 30 ans. Alors, tu vois, tu mesures l'écart un peu, là. Et dans ces 198 000 et quelques exemplaires, il y en a plus de 170 000 qui ont été vendus en Amérique du Nord. Alors, pour dire c'était vraiment son terrain de prédilection, là. C'était très, très populaire aux États-Unis, entre autres, la côte ouest, tout ça. Et il y a aussi, Daniel, et ça, tu le sais, il y a aussi un autre nom important dans l'histoire de Fiat et de la Spider, et c'est Carlo Abarth. Abarth, c'est un préparateur célèbre d'origine autrichienne qui a longtemps collaboré avec Fiat, qui faisait même des versions un petit peu plus sportives des premières Fiat 500. Fiat a ensuite racheté l'entreprise de Carlo Abarth et a racheté le nom Abarth, comme Mercedes a fait avec AMG. Et dans le vocabulaire Fiat, le nom Abarth est encore utilisé et il est toujours réservé à la version la plus sportive d'un modèle. Alors, il va donc y avoir une version Abarth de la Sport Spider originale. Et elle va s'illustrer en rallye sur les circuits. Puis ça va rehausser son pédigré. Elle va même gagner 3 courses en championnat du monde des rallyes. Gagner le championnat européen des rallyes également. Et il y a un peu plus de 1000 versions routières de la 124 Sport Spider Abarth qui ont été construites, ce qui en fait un modèle très recherché par les collectionneurs. Et c'est ce qui m'amène aussi à vous parler de la résurrection de la Fiat 124 Spider et de sa version Abarth, qui est toujours au catalogue. Alors, on va parler de ça dans le prochain bloc, mon cher Daniel.
Oui, on se reparle dans un instant. Merci, Philippe.
Voiture que tu as essayée, hein, d'ailleurs?
Oui, voiture que j'ai essayée. Ben, les deux, la Mazda et la Fiat.
On va échanger nos impressions dans le prochain bloc.
Oui, on en jase tout à l'heure. Et Philippe, si les gens veulent voir les photos ou encore
oui,
lire
merci,
ça...
merci de le mentionner, Daniel. Sur ma page Facebook, il y a des photos des anciennes Fiat 124. Je me suis permis aussi de mettre l'essai routier que Germain Goyer a réalisé dans le Journal de Montréal, parce qu'on peut voir au moins des photos de la 124 actuelle. Ça, c'est sur ma page Facebook. Et sur mon site www.philippelagu.com, il y a également des photos de la Mazda MX-5, la version RF.
Merci Philippe, on se reparle tantôt et on fait une pause. Restez là, au retour, on répond à vos appels.
Auto 360 avec Daniel Boudreau.
Avec Daniel Boudreau.
On prend une petite pause, on revient ensuite. Restez là. Au réseau Cogeco, Auto 360
avec Daniel Boudreau.
L'automobile sous toutes ses soutures, ses coutures, c'est en tout cas.
Auto 360.
Auto 360. Voici la chronique luxe, prestige et histoire avec Philippe Lagu.
Oui, nous voilà de retour et nous allons prendre vos appels un petit peu plus tard à l'émission. On va parler de pneus si vous avez envie ou toute autre question de votre choix. Mais avant, faut parler de Fiat. Hein, Philippe?
Ben, surtout une belle journée comme aujourd'hui et comme les belles journées qu'on a eues cette semaine, parce qu'on parle d'une Fiat décapotable.
Oh.
La Fiat 124 Spider, et que j'ai pu conduire, et j'ai conduit la version Abarth. Bon. Vous allez voir, hein, ben, on le sait d'abord, Daniel, dans l'industrie automobile, il ne faut jamais penser qu'un modèle est disparu pour de bon. Le recyclage, ben, c'est une pratique que les constructeurs maîtrisent très bien. Puis ça, tous les spécialistes de marketing vont vous le dire. Hein, la nostalgie, c'est une corde sensible.
Absolument, absolument. On recycle souvent les noms, par contre. Ben, mais en fait, là, voilà le nom et voilà le modèle reste dans le même esprit.
Ben, autant que possible, parce que si on sort un modèle, un nom qui évoque un souvenir, vous avez de bonnes chances, si vous êtes un constructeur, de frapper dans le mille. Mais si c'est un bon souvenir, évidemment, parce que ressortir la Pinto, la Vega ou la Gremlin, je suis pas certain que ça serait très winner, là. Pas sûr.
Pas vraiment.
Puis tu sais, des fois aussi, Daniel, on ressort un modèle, mais ça marche au début, mais ça dure pas bien longtemps. Pense à la New Beetle, dont le buzz a duré quoi, à peine 2 ans, ou à la dernière Thunderbird. Mais il y a des exemples aussi qui prouvent que, de nombreux exemples qui prouvent que ça peut être une bonne stratégie, c'est-à-dire rentable. On pense bien sûr à la Mini Cooper, la Camaro aussi, hein, c'est quand
ben
même
oui,
bien réussi de ce côté-là. Alors, oui. Fiat a déterré un de ses classiques du siècle dernier, la 500. Lorsqu'ils ont décidé de revenir en Amérique du Nord ou au début des années 2010. Et comme ça a plutôt bien fonctionné, mais ils se sont dit pourquoi qu'on ne ferait pas la même chose avec un autre de nos modèles emblématiques. Et chez Fiat, ben, il n'y en a pas des tonnes. Hein? On pourrait même dire qu'il y en a seulement deux. Alors, ils n'ont pas eu besoin de réfléchir trop longtemps. Ils ont ressuscité la 124 Spider. Et cette fois, ben, on ne s'est pas trop cassé la tête et surtout, on a sauvé une fortune en coût de développement. On a conclu chez Fiat un partenariat avec Mazda qui, justement, fabrique un petit roadster très populaire, la MX-5, celle qu'on appelait autrefois la Miata. Et à l'origine, Daniel, c'est important de préciser que c'est l'Alfa Romeo Spider qui devait être développé conjointement avec Mazda. Mais finalement, le projet s'est retrouvé dans la cour de Fiat, qui, justement, avait, elle aussi, un Spider dans sa boîte à souvenirs. En résultat, ben, la Fiat 124 Spider est construite sur la même plateforme que la Mazda MX-5 et elles sont assemblées dans la même usine à Hiroshima, au Japon. Alors, donc, il y a une Fiat qui est assemblée au Japon. Après tout, il y a des Jeeps qui sont assemblés en Italie maintenant. Alors, c'est ça, la mondialisation aussi, hein?
Ben oui, pourquoi pas? On n'arrête pas le progrès.
Voilà! Maintenant, est-ce que ça fait de la 124 Spider un clone de la Mazda MX-5? Moi, je parlerais plutôt de jumelles non identiques. Puis encore, je dirais même juste des sœurs. Parce que oui, elles partagent la même plateforme, mais elles ont chacune leur propre moteur, hein, ce qui est quand même un gros facteur de différenciation. Mm-hmm. Elles n'ont pas la même carrosserie, là. Il n'y a probablement pas un seul panneau, un seul morceau de tôle en commun sur les deux voitures. La MX-5 a une gueule plus agressive, peut-être, avec ses phares ciselés en avant puis ses ailes bombées. La Fiat, elle, s'inspire clairement de son ancêtre. Et c'est, ma foi, plutôt réussi. Elle a l'air d'une Fiat. Elle n'a pas l'air d'une, d'une Mazda. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Je ne sais pas de quel côté va ta préférence.
Ben moi, j'ai critiqué l'avant de la Mazda dès qu'elle est sortie. J'aime pas les phares à l'avant.
Moi, j'adore ça.
Je trouve qu'on aurait pu être un peu plus agressif. Alors, je me penche un petit peu vers le côté de la 124, mais je vais dire que c'est près un de l'autre. Mais mon cœur penche vraiment un peu plus. Et c'est vraiment la partie avant. Puis, je dois y aller avec ce que j'ai dit à l'époque. C'est vraiment du côté de Mazda. Je pense qu'on aurait pu être plus agressif avec cette voiture.
Mais toi, tu as conduit, si on parle de la Fiat, parce que c'est de elle dont il est question, tu as conduit la version Abarth, toi aussi?
Non, j'ai conduit la régulière.
La régulière. Oui. Parce que la version Abarth, en plus, esthétiquement, il y a le capot et le couvercle du coffre qui sont noirs mâts. Et ça, c'est venu me chercher, parce que c'est directement inspiré des anciennes 124 Spyder de compétition.
Wow, oui, c'est réussi.
Et ça, pour un nostalgique comme moi, justement, là, ça marche, ça. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup aussi de la Fiat 124, mais ça, c'est commun aux deux, là, à la Mazda également, c'est le toit. Hein, pour le baisser ou le remonter, là, ça prend juste quelques secondes, puis on a besoin de juste d'une main, on a, tu sais, fini les contorsions dans l'auto, là. Et ça, c'est, non, mais c'est-tu un charme, ce toit-là?
Un exemple.
Ah, ça, oui, vraiment, absolument. Mm. À l'intérieur, ben, on reconnaît tout de suite les emprunts à Mazda, évidemment, surtout le tableau de bord. Mais encore une fois, j'ai un petit penchant pour l'habitacle de la 124. Globalement, la décoration intérieure est un petit peu plus cossue. Bon, des panneaux de porte qui sont plus rembourrés. L'utilisation de la couleur rouge, hein, couleur symbolique, emblématique de l'Italie pour les coutures, les fonds de cadran. Un levier de vitesse couleur titane avec un petit peu de cuir. Bref, des petites touches d'Italie ici et là. Parcimonieuse, mais juste assez visible là, pour donner à l'habitacle de la Fiat là, une ambiance qui lui est propre.
Les sièges sont un peu plus travaillés, les cuirs. Tu vois que c'est du cuir italien qui sont un petit peu différents. Le piqué est différent. Alors, on a travaillé très fort du côté de Fiat.
On les a bien démarqués, je trouve. Ce qui est dommage, par contre, c'est qu'on n'a pas gardé le système d'infodivertissement Uconnect qu'on retrouve dans les véhicules du groupe Fiat Chrysler.
Là, je te rejoins.
Oui, parce que c'est un des meilleurs de l'industrie automobile et à la place, on a opté, ou plutôt on a laissé en place le système Mazda Connect qui, lui, à mon avis, est un des pires.
Absolument.
On en a d'ailleurs parlé à notre émission, c'était quoi, la semaine dernière ou il y a deux semaines? Quand on parlait des technologies.
C'est pas là que tu voulais tirer quelque chose dehors de la voiture?
C'était exactement le petit écran en question, effectivement. L'autre problème, puis ça, je suis content de parler de ça avec toi, Daniel, parce que t'es plus grand que moi, et j'ai hâte d'avoir ton feedback là-dessus, c'est l'espace. Et moi, j'ai pas de problème dans une Fiat 124 ou dans une Miata, mais je mesure 5 et 8. Mais dès que vous frôlez le 6 pieds, là, vous avez la tête collée au plafond. Tu mesures quoi, toi? CC1, CC2?
Non, tout près de 6 pieds. C'est plus vers le 6 pieds. Et effectivement, c'est ce qui blesse le plus au niveau de cette petite voiture-là. C'est l'espace. Vraiment, là, c'est là que tu as la tête directement dans le plafond. Et là, ça peut être désagréable dans certaines situations. Je dois dire qu'il faut ajuster le siège. On peut quand même l'ajuster et trouver une position assez confortable. Mais moi, j'aimerais ça avoir une petite affaire de plus d'espace. Je pense que dégager davantage le toit ne viendrait pas brimer la voiture, l'aérodynamisme de la voiture ou le style de la voiture, puis pourrait dégager un petit peu plus d'espace.
Ben, c'est parce qu'ils vont carrément perdre des ventes à cause de ça aussi. Là,
ben, c'est ça.
Puis même chose pour les sièges Recaro. Dans la version Abarth, là, moi, je les ai adorés, mais quelqu'un qui est un petit peu plus corpulent que moi va se sentir à l'étroit. Là. Par contre, ils sont optionnels. Donc, les sièges qui sont offerts en équipement de série sont moins enveloppants, donc un peu moins étroits. Là,
et voilà.
Là, ceci m'amène à te parler de la différence fondamentale entre les deux voitures. C'est sous le capot. La Fiat 124 Spyder utilise justement un moteur Fiat, soit le 4 cylindres multi-air de 1,4 litres qui est suralimenté par un turbocompresseur, contrairement à la Fiat 124 Spyder originale qui, elle, avait un petit 4 cylindres atmosphérique. La version Abarth, qui est de retour, elle aussi, a droit à 4 petits chevaux de plus pour un total de 164. Donc, les versions Abarth, là, c'est avant tout cosmétique, hein? 4 chevaux de plus, là, c'est ça.
Ouais, change les roues, les pneus, quelques petites affaires.
Oui, mais ça a de la gueule, tu sais, comme je te disais, le capot, entre autres, et le couvercle du coffre, là. Et si je devais choisir entre une Fiat 124 et une Mazda MX-5, je serais bien embêté parce que le moteur de la Fiat, il est plus souple, il est moins rugueux que celui de la Mazda, et surtout, il a du son. Tu me permettras de citer encore une fois mon collègue Germain, parce que j'aurais pas pu écrire une meilleure phrase. Écoute ce qu'il a écrit, il dit « De ces quatre échappements sortent le meilleur de l'Italie ». Et c'est exactement ce que je pense, c'est ce que j'ai constaté aussi. Et par contre, son moteur est turbo-compressé et ça paraît, c'est-à-dire il y a du couple... Il y a plus de couple, le moteur de la Fiat, que celui de la Miata. Il y a un bon écart quand même. Mais sous les 3500 tours minute, il ne se passe pas nécessairement grand-chose. Mais une fois que le turbo embarque, là, puis quand on dépasse là, les 4000 tours minute, là, ça commence à devenir...
C'est un peu vraiment... plaisir.
Ah, c'est jouissif, j'ose le dire. Et pour un maximum de plaisir, ben, faut jouer du levier, puis se tenir en haut régime. Sauf que c'est un moteur qui est très souple et qui se prête très bien à ça. Puis, écoute, dans une succession de virages, la Fiat 124, là, c'est sa raison d'être. Tout comme la MX-5, d'ailleurs. Parce que dire que c'est une voiture agile, là, ça, c'est un euphémisme. On se sent vraiment en symbiose avec la voiture. C'est comme votre deuxième peau.
La meilleure image, là, c'est un petit go-kart.
C'est le kart.
J'ai déjà essayé un petit go-kart.
C'est inévitable. C'est un cliché,
incroyable.
Mais c'est la réalité.
Et plusieurs personnes, Philippe, disent « Ah, ça, c'est des voitures de filles. » C'est des voitures de filles.
Je suis tellement pas d'accord.
Souvent, tu t'entends dire ça. Là.
Ouais, ouais.
Tu vas aller te promener d'un gros muscle car puis avoir de la grosse puissance à outrance. Non, ça n'a pas 400 chevaux, mais tu peux t'amuser dans les petites routes comme jamais avec ces petites voitures.
Puis plus c'est sinueux, peut-être même plus tu as des chances de semer le muscle car malgré sa puissance. Hein,
ça n'a jamais si bien dit.
Puis c'est important de le préciser. Puis... Il y a une chose qu'il faut dire. Tu fais une comparaison avec le kart, parce que c'est un petit peu inévitable avec ce genre de voiture-là. Mais contrairement à certaines perceptions-là, ou à certaines idées reçues, la MX-5 et sa cousine italienne, là, c'est pas des tape-cul. Moi, j'ai passé des journées complètes dans l'une et dans l'autre. Puis je peux vous dire que c'est beaucoup moins éreintant que dans une Mustang Shelby ou une Corvette Grand Sport. Là.
Absolument.
Qui sont des voitures en plus qui coûtent le double ou plus. Là.
Philippe, c'est des voitures de balade. Puis,
tu
peux partir, aller faire une balade, aller faire de la route, et t'arrives, puis t'es pas éreinté, t'es pas fatigué à outrance. C'est aussi fait pour ça.
Puis c'est important de le dire, c'est important de le préciser. Puis il y a une petite chose aussi, c'est que la Fiat a sa propre suspension, a ses propres réglages de suspension. Puis ça aussi, ça fait une petite différence, parce que je l'ai trouvé une petite coche plus confortable que la Mazda. C'est probablement la voiture avec laquelle j'ai fait le plus de kilométrage cet été et je n'ai jamais ressenti aucun inconfort, aucune fatigue et madame non plus, je le précise. Par contre, la Mazda, la MX-5, c'est la plus sportive des deux. Elle est un petit peu plus neutre en virage, à mort plus. Alors, en résumé, la 124 Spider est un petit peu plus grand tourisme. Un petit peu plus GT, tandis que la Mazda, c'est vraiment la plus sportive des deux. Une petite coche plus rapide aussi, la MX-5, notamment sur les accélérations mesurées. Là.
Ah, faut absolument aller essayer les deux véhicules pour faire sa propre opinion.
Oui, ça, le rendu là, c'est comme la paire de souliers. Prenez celle dans laquelle vous êtes le mieux, puis c'est tout. Là. Le seul hic, évidemment, c'est que c'est le fun, mais c'est un petit peu cher. Avec un prix de base d'environ 33 000 $, là, les MX-5 et 124 Spider partent sur un pied d'égalité, là, à quelques centaines de dollars près. Sauf que, dans le cas de la Fiat que j'ai essayé, qui était une Abarth, le prix dépassait 48 000 $.
Ah.
Donc, on n'est pas loin de 50 000. Là.
Ça commence à être cher.
Ben, c'est une fois et demie le prix de base. Ça commence à faire beaucoup et je dirais même beaucoup trop. Puis là, ben, évidemment, on parle de Fiat. Hein. Il y a toujours la question qui tue. Est-ce qu'elle va être moins fiable que la Mazda? C'est sûr que les antécédents et la réputation de la marque font un petit peu peur. Mais bon, à part le moteur qui est Fiat, il n'y a pas de crainte à y avoir pour le reste. Là. Alors, la Mazda ou la Fiat... Je vais te demander ce que tu en penses, mais pour moi, c'est la Fiat par un cheveu.
Je voudrais pas.
Au photo finish.
Ouais, ça, c'est bien dit parce que je suis à peu près là aussi, au photo finish. La seule affaire qui me ferait changer d'idée, c'est le devant. C'est le devant de la Mazda.
Toi, c'est juste ça.
C'est la seule chose. Et certains cuirs de la 124 que j'aime beaucoup, mais c'est à un cheveu un de l'autre. Donc, c'est deux véhicules, comme tu l'as dit. Allez choisir celle que vous préférez. Vous allez partir avec et vous allez avoir une voiture fort agréable à conduire.
Moi, je précise de toute façon en terminant. Là, si j'ai un petit penchant pour la Fiat, et surtout en version Abarth, c'est à cause de la nostalgie. Alors, quand je dis que c'est une corde sensible en marketing, là, j'en suis la preuve vivante.
Là, tu laisses choisir ton cœur et non ta tête.
Ah oui, mais quand on achète une voiture comme ça, de toute façon, c'est pas nécessairement un achat rationnel. Hein?
Effectivement.
Ouais. C'est pas comme acheter une Corolla.
Non, pas pantoute.
Mettons.
Merci beaucoup, Philippe.
Ben, ça a été un plaisir, Daniel.
On te lit à quel endroit?
www.philippelagu.com. Merci de le mentionner à chaque fois.
Fait plaisir. On se reparle la semaine prochaine.
Avec grand plaisir.
Alors, Philippe Lagu, on fait une pause et au retour, ben, on vous parle. Restez là.
Au réseau Cogeco, vous écoutez Auto 360 avec Daniel Boudreau.
On prend une petite pause. On revient ensuite. Restez là.